Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut.
Salut à toutes et à tous. Les récentes observations du télescope spatial Webb ont révélé une abondance inattendue de galaxies massives candidates dans l'univers jeune. Ces galaxies candidates, observées avec Webb, ont été interprétées comme remettant en cause la cosmologie du modèle Lambda-CDM. Mais jusqu'à présent, les observations n'ont pas eu de confirmation spectroscopique de leur décalage vers le rouge. Une équipe d'astrophysiciens a effectué une étude systématique de 36 galaxies massives obscurcies par la poussière avec des décalages vers le rouge compris entre 5 et 9, provenant du relevé Fresco du télescope Webb. Ils ne trouvent aucune tension avec le modèle standard dans leur échantillon. En revanche, ils ont déniché 3 galaxies ultra-massives de plus de 100 milliards de masses solaires et qui montrent une efficacité monstrueuse pour fabriquer des étoiles. L'article est publié dans Nature. Les masses stellaires des galaxies de l'échantillon sont comparées à la masse maximale à laquelle on pourrait s'attendre à trouver une galaxie dans le volume étudié, compte tenu de la fonction de masse du halo de matière noire entourant les galaxies et de la fraction de baryons cosmiques. Dans ce paradigme, de type lambda-CDM donc, Meng-Yuan Xiao de l'Université de Genève et ses collaborateurs, dont le français David Elbaz, bien connu, dérive la masse la plus grande du halo de matière noire à différents redshifts dans le volume d'études correspondant, c'est-à-dire environ 1,2 10 puissance 6 mégaparsec cube à un redshift Z entre 5 et 9, et selon la fonction de masse du halo. La masse stellaire maximale est ensuite déduite de la masse maximale du halo de matière noire avec une fraction baryonique cosmique qu'on appelle FB, qui est le rapport de oméga B sur oméga M, équivaut 0,158. Oméga B, hein, on le rappelle, c'est le paramètre de densité baryonique, et oméga M, c'est le paramètre de densité de matière dans l'univers. Et les chercheurs utilisent l'efficacité théorique maximale, l'efficacité qu'on appelle epsilon, pour la conversion des baryons en étoiles, c'est-à-dire du gaz en étoiles. Xiao et ses collaborateurs considèrent donc deux cas possibles pour Epsilon. D'une part, l'efficacité la plus élevée qui a été obtenue à partir de modélisations phénoménologiques basées sur les observations, et qui vaut 0,2, et puis l'efficacité maximale théoriquement permise, qui est donc Epsilon égale 1. Ils calculent ensuite les limites inférieures de l'efficacité des galaxies de leur échantillon afin de vérifier si les galaxies massives à haut redshift pourraient former des étoiles avec une efficacité étonnamment élevée, supérieure à 0,2 ou même carrément supérieure à 1. Dans cette analyse, les chercheurs supposent de manière conservatrice que chaque galaxie est située dans le halo de matière noire le plus massif. Xiao et ses collaborateurs ne trouvent aucune galaxie avec un epsilon supérieur à 1, ce qui suggère donc que l'échantillon ne présente pas de tension significative avec le modèle lambda-CDM. La fiabilité de cette conclusion vient du fait que les astrophysiciens disposent à la fois de masses stellaires et de décalages vers le rouge qui sont robustes. Alors en revanche, il y a tout de même 5 galaxies extrêmes dans cet échantillon de 36 galaxies qui montrent un epsilon supérieur à 0,2, c'est-à-dire une efficacité accrue dans la conversion du gaz en étoile. Et 3 galaxies sont à un redshift de 5 à 6, donc ça veut dire entre 0,9 et 1,2 milliard d'années après le Big Bang, et 2 sont à un redshift compris entre 7 et 8. Xiao et ses collègues se concentrent sur les 3 objets à plus faible décalage vers le rouge, car les masses stellaires qui sont dérivées sont significativement moins robustes pour les objets qui ont un redshift de 7 à 8. Les 3 monstres sont nommés S1, S2 et S3. Elles ont été détectées précédemment par des observations du Submillimeter Common User Bolometer Array 2, qu'on appelle le SCUBA 2. Mais seul S2, aussi connu sous le nom de GN1035, avait un décalage vers le rouge et une masse stellaire fiable avant les observations de Webb. Alors Xiao et collaborateurs constatent que S1, S2 et S3 sont extrêmement massives, plus de 100 milliards de masses solaires en étoiles. Et puis elles sont rouges et fortement atténuées par la poussière. Ils trouvent qu'elles ont également des taux de formation d'étoiles très élevés, spécifiquement 795 plus ou moins 40 masses solaires par an pour S1, 1030 plus ou moins 190 masses solaires par an pour S2 et 988 plus ou moins 49 masses solaires par an pour S3. Alors ça indique que ces galaxies sont dans un processus de production d'étoiles très efficace. L'étude des raies d'émission, de la morphologie des sources et des données multilongueurs d'onde ne révèle aucun signe d'une contribution significative des noyaux actifs de galaxies. Par conséquent, la nature ultra-massive de ces trois galaxies est fiable. Ces galaxies ultra-massives, pour l'époque où elles se trouvent, sont surnommées des « Red Monsters », des monstres rouges par les astrophysiciens. En comparant les masses de ces galaxies avec les prédictions, il est clair qu'elles nécessitent une conversion en étoiles extrêmement efficace de tous les baryons disponibles, d'environ 0,5 en moyenne, c'est-à-dire 2 à 3 fois l'efficacité la plus élevée qui a été observée à un redshift inférieur, qui équivaut 0,2, on le rappelle. Ces trois galaxies se situent donc à un redshift compris entre 5 et 6, démontrant que l'existence de galaxies ultramassives qui défient les modèles d'assemblage de galaxies n'est pas limitée à l'univers le plus lointain avec un redshift supérieur à 8, mais inclut également des galaxies à des époques plus tardives qui étaient auparavant cachées par l'obscurcissement de la poussière. L'efficacité élevée de la conversion baryon-étoile ou gaz étoile si vous préférez, dans ces trois galaxies ultramassives, pourrait également être démontrée dans l'autre sens. Et oui, en supposant une efficacité maximale observée, qui vaut 0,2, les masses stellaires de S1, S2 et S3 correspondent à des masses de halo de matière noire de respectivement 10 puissance 12,88, 10 puissance 12,68 et 10 puissance 12,54, masse solaire. Donc ça fait plus de 1000 milliards de masses solaires. La densité volumique de galaxies observées est d'environ 3 10 puissance moins 6 galaxies par mégaparsec cube à un redshift de 5 à 6 dans les 124 arcminutes carrées des champs de l'étude Fresco. Pour le cas le plus extrême, S1 comparait aux densités cumulées théoriques de galaxies d'environ 2,8 10 puissance moins 9 galaxies par mégaparsec cube, ayant une masse totale de 10 puissance 12,88, masse solaire, la probabilité de détecter une telle galaxie dans un champ aléatoire aussi grand que celui de Fresco n'est que de 0,0008. En d'autres termes, si la distribution des galaxies dans l'univers était homogène, et si epsilon égale 0,2, on s'attendrait à ne détecter qu'une seule galaxie telle que S1 dans un champ 1188 fois plus grand que celui de Fresco. Et pour S2 et S3, les probabilités sont de 0,017 et 0,08 respectivement. Ce qui requiert des champs 58 fois et 12 fois plus grand que le champ de l'étude Fresco pour les détecter. Alors ça démontre que l'efficacité de la formation d'étoiles dans ces galaxies doit être significativement plus élevée que celle normalement trouvée à des redshifts plus faibles dans le modèle standard de formation des galaxies au sein de halos de matière noire froide. Et Xiao et ses co-auteurs calcule que les galaxies extrêmement massives contribuent de manière significative à la densité totale du taux de formation d'étoiles dans l'univers jeune. Il trouve que, en incluant seulement S1, S2 et S3, la densité du taux de formation d'étoiles atteint une valeur de 2,4 10 puissance moins 3 masse solaire par mégaparsec cube, à un redshift de 5,8. Cette valeur correspond à 17% de la densité totale du taux de formation d'étoiles à ce redshift. Selon les chercheurs, ce résultat suggère qu'il existe une proportion importante de formations stellaires extrêmement efficaces dans l'univers jeune. Avec les mesures sûres du décalage spectral et de la masse stellaire, ces résultats fournissent des preuves solides que l'univers primitif doit être 2 à 3 fois plus efficace dans la formation de galaxies massives que la tendance moyenne trouvée par des études antérieures à des époques plus tardives. La découverte de Xiao et ses collaborateurs, ainsi que l'excès possible de galaxies lumineuses en UV à un redshift supérieur à 8, qui a été révélé par les observations de Webb, indiquent que les modèles de formation des premières galaxies doivent être révisés, bien que en restant dans le cadre du modèle cosmologique lambda-CDM. Alors pour conclure, les astrophysiciens notent que 2 des 3 galaxies ultramassives ont récemment été localisées dans une structure à grande échelle en cours de formation. Par conséquent, selon eux, les effets potentiels de la variance cosmique doivent être soigneusement pris en compte avant de concevoir des modèles. En outre, les galaxies les plus massives, situées dans les régions les plus denses de l'univers, peuvent avoir une histoire de formation spécifique, ce qui nécessite des modèles uniques de formation des galaxies pour expliquer comment la formation d'étoiles est effectivement augmentée à un taux significatif dans ces régions. Pour Xiao et ses collaborateurs, des variations dans la fonction de masse initiale pourraient également reproduire les propriétés extrêmes qui sont observées dans leur échantillon. Des scénarios doivent encore être étudiés par des observations plus détaillées. Avec une plus grande résolution spatiale ou une meilleure sensibilité, les futures observations spectroscopiques de l'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, ou bien du Northern Extended Millimeter Array, NOEMA, et aussi du télescope Webb, bien sûr, pourraient aider à consolider la nature massive de ces galaxies, grâce à des mesures de masse dynamique et, pourquoi pas, tester différents scénarios pour leur formation avec l'analyse de la cinématique et aussi de la composition chimique du milieu interstellaire. L'article de Xiao et ses collaborateurs est paru dans Nature, le numéro 635, daté du 14 novembre 2024. Il a pour titre « Une formation accélérée de galaxies ultramassives » dans les premiers milliards d'années de l'univers. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Hein ? Salut !